Nous allons reprendre et je vais terminer ce que je n'avais pas tout à fait terminé lors de la dernière leçon, qui est de faire une petite synthèse récapitulative de ces deux leçons consacrées aux images des Tsimshian. Je vais reprendre le tableau que je vous avais déjà montré revenir sur le fait que les images animiques et les images totémiques chez les Tsimshian, elles se distinguent moins les unes des autres par des conventions stylistiques, encore que ces conventions ne sont pas complètement absentes, on va le voir, que par les conditions matérielles et pragmatiques de leur fabrication et de leur usage. Alors, elles diffèrent dans la façon, évidemment, dont le tableau le montre, dont on obtient les motifs et dont on les transmet. Elles diffèrent dans la nature de ce que ces images rendent possible, donc dans le type d'agence dont elles sont porteuses. Elles diffèrent, ces images, dans la manière dont elles sont activées et validées. Elles diffèrent dans le statut de ceux qui les fabriquent et donc, évidemment, dans l'importance sociale qui leur est accordée. Elles diffèrent, enfin, dans le type de support sur lequel elles sont figurées. Mais à côté de ces différences matérielles et sociales, il n'est pas impossible de repérer quelques différences formelles. D'abord sur le plan technique. Les images animiques sont exclusivement des sculptures en ronde-bosse, c'est-à-dire qu'elles reproduisent avec réalisme un prototype, réel ou imaginaire, généralement un esprit animal ou humanoïde, dont la présence active doit pouvoir être objectivée de façon convaincante. D'où l'importance dans cette opération de la tridimensionnalité. En revanche, les images totémiques sont soit en deux dimensions, comme les peintures sur les frontons des maisons, comme les chilkats, c'est-à-dire ces couvertures tissées de motifs qui sont très connus dans l'art de la côte nord-ouest, comme les images qui ornent les vêtements, en général qui sont brodées sur les vêtements, ou quasiment en deux dimensions, comme c'est le cas des sculptures en bas-relief qui sont réalisées sur les frontaux et sur les écrans, c'est-à-dire des panneaux de bois qui servent de séparation interne dans les maisons. Et évidemment, ceci, soit des images sur une surface plane en deux dimensions, soit en bas-relief, permet des compositions, c'est-à-dire des combinaisons d'attributs plus complexes que dans une représentation en trois dimensions. Alors il y a une exception, bien sûr, ce sont les mâts héraldiques, qui sont eux aussi en ronde-bosse, mais dont on peut noter d'une part que c'est probablement une innovation récente et qui sont par ailleurs limitées dans leur principe de composition à une disposition séquentielle, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, selon l'axe qu'on choisit de suivre. Par contraste, avec les images en deux dimensions, qui, elles, permettent une beaucoup plus grande variété dans la figuration des attributs totémiques que c'est le cas dans les mâts héraldiques. Alors on voit que, en fait, on est passé insensiblement du plan des différences techniques au plan des différences dans les principes de composition, et les contrastes sont assez nets, en fait, dans les principes de composition. Les images animiques, du fait qu'elles sont figurées en ronde-bosse, représentent des singularités de façon réaliste à partir d'autant de points de vue qu'il y aura d'observateurs potentiels. C'est un simple effet de la tridimensionnalité, mais qui n'est évidemment pas pris en compte dans la composition même de l'image, puisque celle-ci peut être regardée sous toutes ses faces. Par contraste, les images totémiques sont souvent des images qui résultent d'une composition complexe qui donne à voir un assemblage d'attributs. On en a vu quelques exemples lors des leçons précédentes. Sous réserve de vérifications plus poussées, on peut penser, c'est l'hypothèse que j'avais faite, que, à tout le moins chez les Tsimshian, ce sont les images totémiques les seules à employer la figuration dédoublée ou la figuration éclatée. Or, cette technique figurative a pour effet de multiplier les points de vue sur l'objet dépeint, puisque chaque élément représentant une partie de l'animal, puisque c'est généralement un animal, constitue une vue sur l'un de ses aspects. L'un de ces aspects qui n'est pas toujours observable dans la réalité, parce que je ne vois pas le derrière, en effet, de cette lampe ou le derrière de cet ordinateur. Donc si je le représente en le dépliant, soit l'ordinateur, soit la lampe, eh bien j'aurai des qualités supplémentaires dans l'image. Donc une multiplication des points de vue. Autrement dit, en dépliant et en juxtaposant dans une image plane tous les plans d'un animal totémique, on figure de façon explicite l'ensemble de ses attributs, un peu comme s'il s'agissait d'une liste. C'est une liste en images. Donc l'image totémique devient de ce fait une sorte de chose en soi, un paquet de qualités complètement indépendant du point de vue subjectif qu'un observateur peut porter sur cette image. Et cette conclusion, elle incite à poursuivre la question de la géométrie représentationnelle à un plus grand niveau de généralité. C'est ce que je vais faire maintenant, et je reviendrai à l'occasion de cela, précisément, sur le type de géométrie tout à fait particulier des images de la côte nord-ouest. Donc je voudrais, à partir de maintenant, aborder cette question de la construction géométrique de l'image du point de vue des choix qui sont faits d'actualiser telle ou telle caractéristique de ce qui est perçu dans le champ visuel humain et, évidemment, par voie de conséquence, d'en négliger telle ou telle autre. Et l'hypothèse que je fais, c'est que chacun de ces choix représente un choix ontologique au sens large, c'est-à-dire dépendant d'une part des qualités des objets que l'on choisit ou non de figurer, d'actualiser, de rendre présent à la vision, d'autre part de la définition que l'on donne de ce qui est connaissable par un sujet, et notamment de la capacité qui est reconnue à ce sujet, ou pas, d'avoir ou non un point de vue subjectif. Alors ces questions sont loin d'être nouvelles. Une façon de les aborder vient immédiatement à l'esprit, c'est le fameux essai de Panofsky sur la perspective. Dans la perspective comme forme symbolique, Panofsky a montré comment l'emploi de la géométrie projective pour construire la perspective linéaire dans la première moitié du XVe siècle avait eu pour effet d'induire un rapport nouveau entre le sujet et le monde, entre le point de vue de celui qui toise, qui regarde, et un espace rendu systématique où les objets et les intervalles qui les séparent ne sont que des variations proportionnelles d'un continuum sans faille. Alors, Panofsky fait remarquer qu'il existait dans l'Antiquité des techniques de raccourci qui étaient employées notamment en architecture et qui visaient à restituer la dimension subjective de la perception des formes par une déformation méthodique des objets représentés. Mais l'espace où ces déformations étaient inscrits demeurait discontinu et comme résiduel. En revanche, la perspective artificielle ou la perspective linéaire, théorisée par Alberti, vise à restituer la cohérence ou la cohésion d'un monde parfaitement unifié dans un espace rationnel, mathématiquement construit, pour échapper aux contraintes psychophysiques de la perception. Or, la chose que Panofsky a bien mis en lumière dans son essai, c'est que cette nouvelle forme symbolique de l'appréhension du monde, pour reprendre son expression, présente un paradoxe, et ce paradoxe est le suivant. L'espace infini et homogène de la perspective linéaire est néanmoins construit et axé à partir d'un point de vue arbitraire, qui est celui de la direction du regard de l'observateur. C'est donc une impression subjective qui sert de point de départ à la rationalisation d'un monde de l'expérience où l'espace phénoménal de la perception est transposé dans un espace mathématique, celui de la géométrie projective. Et une telle objectivation du subjectif produit un double effet. Elle crée une distance entre l'homme et le monde, tout en renvoyant à l'homme, aux humains, la condition de l'autonomisation des choses, et elle systématise et stabilise l'univers extérieur, tout en conférant au sujet connaissant, au sujet regardant, la maîtrise absolue sur l'organisation de cette extériorité nouvellement conquise. Donc la perspective linéaire, c'est l'enseignement de l'essai de Panofsky, institue dans le domaine de la représentation la possibilité de ce face-à-face entre l'individu et la nature qui va devenir caractéristique du naturalisme moderne et dont la peinture de paysage, notamment, deviendra l'expression artistique emblématique. Donc il s'agit bien d'un face-à-face entre le sujet et le monde et d'une nouvelle position du regard, car au fond, la projection plane, éloigne les choses, mais elle ne porte en elle nulle promesse d'un dévoilement véritable, d'un dévoilement profond. Et Merleau-Ponty, dans son essai « L'œil et l'esprit », l'avait bien noté lorsqu'il écrivait « C'est au contraire à notre point de vue qu'elle renvoie », il parle de la perspective linéaire, « quant aux choses, écrit-il, elle fuit dans un éloignement que nulle pensée ne franchit. » Autre exemple de l'importance d'un choix dans la représentation géométrique de l'espace, c'est un exemple que discute l'historien de l'art Joseph Körner dans son livre « The Reformation of the Image » paru en 2004, et dans lequel Körner discute notamment des implications, qui sont en l'occurrence théologiques, d'un choix de représentation perspective. Il s'agit d'une crucifixion, c'est le point de son point de départ, de Cranach, l'ancien, qui a la particularité de combiner une vue frontale de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste et une vue oblique du Christ. Et cette combinaison, elle a pour effet d'insérer le spectateur à l'intérieur, en quelque sorte, de la scène. Donc, en manipulant le point de vue, en combinant deux points de vue, Cranach dépeint la perception subjective d'un témoin qui serait presque tombé comme par accident sur le site de la crucifixion. Mais sous l'effet des enseignements de Luther, Cranach, puisque au fond c'est l'objet du livre de Körner, hein, l'effet sur les images de la Réforme, sous l'effet des enseignements de Luther, Cranach va ensuite renoncer à ce point de vue oblique dans ses représentations de la crucifixion, et il va adopter une perspective frontale plus classique du Christ en croix. Et on en a un très bon exemple dans le triptyque de l'église de Sankt Marien à Wittenberg, où Cranach a représenté donc une image de crucifixion frontale, Luther à droite et les fidèles à gauche, donc de part et d'autre du Christ, invitant ainsi le spectateur à partager la vue que le prédicateur indique. Et comme l'écrit Körner, la subjectivité que la perspective oblique rend manifeste dans la crucifixion de 1503 est remplacée par une figuration mettant en avant, je cite Körner, l'idée théologique que tous les chrétiens partagent une image interne du Christ, de fait que le Christ et son message sont identiques pour tous les croyants. Et bien que le contenu de la scène reste identique dans les deux images, Christ en croix, la manipulation d'une qualité formelle, et puis évidemment aussi du contexte à l'intérieur duquel la scène est dépeinte, c'est-à-dire la manipulation du point de vue à partir duquel l'image est construite, peut ainsi transformer de façon radicale la façon dont une œuvre est regardée et donc sa signification théologique. Une autre réflexion classique sur les significations théologiques ou spirituelles des choix de perspective est celle, là je fais un petit retour en arrière si vous voulez, est celle qui a été menée à peu près à la même époque où Panofsky écrivait son essai sur la perspective, par un étonnant personnage qui s'appelait Pavel Florensky, qui est un philosophe, un mathématicien, un physicien, un historien de l'art, et aussi un théologien et un prêtre orthodoxe. Il était admiré par Lénine et par Trotsky, et donc à une période en plus particulièrement troublée, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'histoire de la Russie, parce que en fait, il a écrit ses textes juste après la Révolution de 17, et dans un essai qu'il a écrit pour une conférence en 1920, qui s'appelle « La perspective inversée », essai qui a été traduit et publié en français en 1992, il propose des réflexions très originales sur la perspective. À l'origine, c'était un essai qui était rédigé comme une conférence que Florensky devait donner au monastère de la Laure de la Trinité-Saint-Serge, dont il avait été, où il avait vécu, résidé pendant plus d'une dizaine d'années. Et c'est une réflexion sur le rapport entre la perspective et l'expérience psychophysique de la peinture. Et bien qu'il ait collaboré avec les institutions de la Russie soviétique, avant d'être d'ailleurs exécuté en 1937, le père Florensky était un fervent apologue de la richesse spirituelle de la foi orthodoxe, et son essai visait à réhabiliter la perspective inversée employée dans les icônes russes, globalement dans une période de façon systématique, en tout cas, qui va du XIVe au XVIe siècle, par contraste avec le naturalisme sans âme pour lui, de la perspective linéaire que l'Europe de l'Ouest avait commencé à développer à peu près à la même époque. Alors la perspective inversée, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est tout simplement la construction géométrique dans laquelle le point de fuite est homologue au point d'observation. Autrement dit, les lignes ne convergent pas depuis le spectateur vers un point de fuite qui est au centre derrière l'image. Elle converge au contraire depuis l'image vers le spectateur, c'est-à-dire vers le point d'observation. Donc le point de fuite est fixé sur le point d'observation, c'est-à-dire sur le spectateur. Et de ce fait, au contraire de ce qui se passe avec la perspective linéaire, les objets les plus éloignés sont figurés comme de plus grande taille que les objets les plus proches. Alors, si on fait ça de façon un peu systématique, ça donne des images très contre-intuitives, mais si c'est fait à une distance relativement modérée, c'est à peine notable. En voilà un bon exemple. Alors là, la distance, effectivement, est modérée, mais vous remarquerez que l'arrière du trône est plus large que l'avant. Et il en va de même pour le repose-pied, à l'inverse du canon de la perspective linéaire. Alors, Florensky développe l'argument que, de toute façon, tant la perspective linéaire que la perspective inversée sont des modes de figuration symbolique, dans la mesure où ni l'une ni l'autre ne sont en mesure de dépeindre avec exactitude la réalité psychophysique, puisque aucune méthode mathématique ne permet de transporter un objet en trois dimensions sur une surface plane en conservant à la fois la totalité de ses points, ça on peut le faire, et la structure organisationnelle de l'objet. On peut conserver la structure, mais on n'a pas la totalité des points. On peut conserver la totalité des points, mais on n'a pas la structure. Donc il faut faire des choix de géométrie représentationnelle, et celui de la perspective inversée lui paraît révéler beaucoup mieux ou beaucoup plus que celui de la perspective linéaire. Je cite Florensky, « Les œuvres d'art diffèrent les unes des autres, non parce que certaines seraient symboliques, tandis que d'autres seraient ostensiblement naturalistes, mais parce que, étant toutes non naturalistes, elles sont des symboles de divers aspects d'un objet, de diverses perceptions du monde, de différents niveau de synthèse. Alors pourquoi la perspective inversée serait-elle supérieure à la perspective linéaire du point de vue des ambitions qu'une image pour Florensky doit atteindre ? Parce que, selon Florensky, le but de l'art n'est pas d'imiter le mieux possible la réalité, mais, je le cite, de nous unir à des réalités qui sont inaccessibles à nos sens. Et la perspective inversée parvient particulièrement bien à nous donner accès à ce qui est hors de portée de l'expérience sensible. Et il prend comme exemple le jugement dernier de la chapelle Sixtine, dans lequel Michel-Ange a dépeint les figures les plus éloignées du spectateur, c'est-à-dire les plus hautes sur le mur, plus grandes que les figures les plus proches. C'est-à-dire que plus on monte vers le haut, hein, donc dans la hiérarchie céleste, plus les personnages sont grands, à l'inverse de ce que le respect d'une perspective linéaire devrait commander. Donc c'est une forme de perspective inversée, mais qui se déploie sur une surface verticale. Et le résultat, selon Florensky, c'est l'expérience d'une complète incommensurabilité, ce sont ces termes, avec l'espace normal. Il écrit « Nous ne sommes pas attirés dans l'espace de la fresque, au contraire, il nous repousse comme une mer de mercure repousserait nos corps. » Et la fresque offre donc l'image d'un monde, je cite toujours Florensky, « qui nous est transcendantal, nous qui pensons, selon Kant et Euclide. » Enfin, d'après Florensky, la perspective inversée combat la tendance au solipsisme, à travers l'usage du polycentrisme. Je cite encore Florensky, « La composition est construite comme si l'œil, dans une image en perspective inversée, évidemment, comme si l'œil en regardait différentes parties tout en changeant sa position. Donc différentes parties de la peinture sont disposées, chacune depuis son point de vue particulier, avec son propre point de perspective et quelquefois aussi avec son propre horizon. Autrement dit, comme dans la crucifixion de Cranach, dans des figurations en perspective inversée, de multiples points de vue sont contenus dans le tableau. Et comme le note un jeune historien de la religion, Aaron Tugendhat, dans un commentaire de Florensky, l'expérience partagée, je le cite, l'expérience partagée de la peinture est contenue dans la peinture elle-même. À ce titre, la peinture rend disponible pour la vision humaine une objectivité qui, à la différence de la perspective linéaire, dans l'interprétation de Panofsky, n'est pas réduite à la subjectivité individuelle et de telles peintures, comme l'écrit Florensky, se libèrent de la perspective, je le cite, au profit de l'objectivité religieuse et de la métaphysique suprapersonnelle. Donc, la subjectivité du point de vue ordonnateur dans la perspective artificielle. L'œcuménisme luthérien, dans la combinaison entre un point de vue frontal et un point de vue oblique, la mise en évidence de l'autonomie métaphysique dans la perspective inversée, ces trois conséquences d'un choix, de différents choix, de géométrie représentationnelle qui mettent en jeu des options idéologiques, voire des options ontologiques contrastées. Alors maintenant, je voudrais pousser un peu et examiner l'ensemble des invariants géométriques qui sont disponibles pour la figuration et la façon dont ils sont exploités dans différents types d'images. On dispose pour cela, fort heureusement, d'un travail que je trouve extrêmement intéressant, peu connu, très peu cité, et j'en suis toujours surpris, qui est le travail d'une psychologue qui s'appelle Margaret Hagen, qui a publié en 1986 un livre qui s'appelle « Varieties of Realism » et qui est un livre sur la géométrie de la représentation. L'idée fondamentale qu'elle développe, au fond, c'est que toute image efficace rend disponible pour celui qui la regarde le même genre d'information visuelle que l'information fournie par l'environnement ordinaire, mais transformée par des principes géométriques. C'est donc pas simplement l'art occidental qui, comme on vient de voir d'ailleurs, a subi l'influence de la géométrie projective à la Renaissance. Toutes les formes de production d'images, quelles qu'elles soient, en deux dimensions, là on ne va parler que d'images en deux dimensions, utilisent aussi des principes géométriques, mais qui sont différents évidemment de la géométrie projective. Autrement dit, toutes les images iconiques produites dans n'importe quelle culture exploitent ce qu'on pourrait appeler, alors ça c'est l'hypothèse de Margaret Hagen, la perspective naturelle, c'est-à-dire la géométrie de la lumière qui frappe, qui touche l'œil. En ce sens, ces images fournissent des informations visuelles de même nature que celles offertes par le référent qu'elles représentent, cette correspondance pouvant être mieux comprise grâce au concept de la géométrie moderne et notamment les notions d'invariant, de transformation et de groupe. Alors il faut préciser que les thèses de Margaret Hagen sur la géométrie de la représentation naturelle sont directement inspirées de la théorie écologique de la vision du neurophysiologiste James Gibson. Margaret Hagen est une psychologue de la perception et une disciple de Gibson. Il faut peut-être en dire un mot, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, c'est une figure importante de la psychophysiologie de la perception. Et l'un de ses concepts centraux, celui qui est peut-être le plus connu, c'est la notion de affordance. Affordance, qu'on a traduit parfois en français par promission, c'est une notion qui se fonde sur le principe que l'environnement des animaux, qu'ils soient humains ou non humains, possède des propriétés qui ne sont pas réductibles au seul monde physique ou à la seule expérience phénoménale, mais ils sont à l'interaction entre les deux, ils résultent de leur couplage, puisque ces propriétés sont fonction des possibilités, des promissions, des affordances, qu'un observateur perçoit dans l'environnement pour y engager une action en accord avec ses capacités sensorimotrices et perceptives. Donc pour un homme, pour un mouton, c'est un exemple classique, le bord d'une falaise se prête d'un côté sur le bord de la falaise à la locomotion, de l'autre à une chute, tandis que pour un vautour, c'est un lieu qui éventuellement invitera à l'envol, en raison des colonnes qui permettent de faciliter le décollage et de se maintenir en vol. Donc le fait qu'on puisse, dans cet endroit, mener des actions complètement différentes n'est pas une propriété intrinsèque, évidemment, des falaises qui seraient susceptibles d'être étudiées par un géomorphologue, par exemple. Les attributs particuliers des éléments du relief concernés ici ne deviennent tels que pour des organismes qui sont capables d'en tirer profit. Et Gibson soutient en outre qu'il existe des invariances suffisantes dans la topologie de la lumière ambiante pour permettre de spécifier les propriétés de l'environnement, dont les affordances, sans la médiation de représentation interne. Alors ça, il va au-delà, évidemment, des théories classiques de la perception, une théorie qui est très critique vis-à-vis du réalisme cognitif dominant en psychologie. La perception, pour lui, elle est immédiate et elle consiste à détecter ces invariances optiques, tout comme les affordances que ces invariances optiques rendent manifestes, et cela indépendamment de l'action d'une certaine façon, puisque les affordances sont toujours là, prêtes à être actualisées, prêtes à être perçues par un organisme qui pourra évidemment en tirer profit, c'est-à-dire qui est doté des atouts biologiques pour les percevoir et pour les utiliser. Donc une telle redéfinition de la perception implique évidemment à son tour une redéfinition des opérations de l'esprit qui engage beaucoup de choses, notamment l'idée que l'extraction et l'abstraction des invariants optiques par un organisme relève à la fois de la perception et de la connaissance, et qu'au fond, la connaissance n'est qu'une extension de la perception. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, il y aurait de quoi consacrer plusieurs années de cours aux théories de Gibson, c'est simplement pour situer l'environnement conceptuel au sein duquel Margaret Hagen développe ses idées sur la géométrie de la représentation. L'un des nombreux apports de Gibson à la compréhension écologique de la perception visuelle, c'est d'avoir fait progresser l'intelligibilité des mécanismes de la perception des gradients par un sujet en mouvement. Et ça, c'est très important. L'argument de Gibson, c'est en effet que les gradients de dimension, de texture, de parallaxe, de ligne et les formes résultant de la vue perspective sont tous des invariants pour un sujet ou un observateur qui se déplace. Notre environnement se modifie à mesure, tel que nous le percevons, se modifie à mesure que nous nous déplaçons. Autrement dit, la perception dépend avant tout du recueil, non pas de simples structures statiques réfléchissant la lumière, mais d'invariants, si vous voulez, structurales, qui persistent dans des vues qui changent avec le déplacement de l'observateur. Cette idée contraste évidemment avec l'approche qui consiste à dire que les stimuli de la perception sont comme une série d'images fixes qui s'impriment sur la rétine et qui doivent être ensuite intégrées par des modules complexes pour donner une perception holiste d'un environnement tridimensionnel, à la manière un peu de ce que fait une caméra cinématographique qui enregistre toute une série d'images et qui ensuite, du fait de la simple rapidité du mouvement de la projection, arrive à donner l'illusion du mouvement. Pour Gibson, au contraire, la perception ne dépend pas de la structure d'un seul ensemble d'angles visuels emboîtés, mais de l'information invariante qui se révèle à l'observateur lorsqu'il se déplace dans un environnement ou aussi bien lorsqu'un objet se déplace dans cet environnement. Je pense que c'est une grande avancée, notamment par rapport à un grand ancêtre qui est Euclide, lequel, au fond, a décrit le problème de rendre compte de l'apparence géométrique des choses sous les espèces des rapports qui peuvent être établis entre des angles visuels et des distances, mais sans apporter de solution au problème de reconstruire des constantes visuelles de dimension et de forme. Alors, dans son dernier livre, Gibson, livre de 79, The Ecological Approach to Visual Perception, qui est sans doute le plus connu, Gibson a proposé différentes classes d'informations invariantes dans la structure optique de la lumière, dont la première est indubitablement de nature géométrique, puisqu'elle concerne les transformations subies par les formes perçues lors d'un changement de point d'observation ou lors du déplacement d'un objet. Alors, ce concept d'invariant est extrêmement utile pour comprendre comment la perception de propriétés relativement persistantes de l'environnement devient possible, comment la perception des images, au fond, est possible, et quel est le rapport entre l'environnement ordinaire, perçu par un sujet X, et les images qui représentent cet environnement ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'un invariant dans le cas présent ? C'est simplement ce qui demeure dans la transposition d'un objet selon qu'on le regarde sous un autre angle, selon qu'on le regarde de près ou de loin, selon qu'on le regarde depuis le haut ou depuis le bas. Plusieurs de ces propriétés peuvent varier selon le type de transformation auquel l'objet est soumis, en fonction du déplacement du point de vue ou, s'il s'agit d'une image, selon le choix représentationnel qui a été opéré de représenter telle ou telle propriété de l'objet plutôt que telle ou telle autre, de représenter sa forme, son orientation, sa couleur éventuellement, etc., etc. Or, les transformations géométriques permettent d'envisager tous les cas de figure qui concernent les changements ou les invariances de dimension, de forme, de distance d'observation, de texture, d'inclinaison, de trajectoire, etc., etc. Par exemple, une transformation par similitude maintient la forme mais change la dimension. Donc ça, c'est un exemple très simple. Le cercle B est une transformation du cercle A, qui est le plus grand. Son rayon est plus petit que celui du cercle A, mais il partage le même centre. Donc B est une réduction de A, mais qui n'a pas été obtenue par une translation dans le plan. Leur forme demeure similaire. Si dans une image, par exemple, je représente le soleil par un cercle, je fais une transformation par similitude. La dimension change, mais la forme ne change pas. Autrement dit, les transformations géométriques de figures peuvent ainsi être groupées selon les propriétés des figures qu'elles vont laisser invariantes. Dans la géométrie euclidienne, par exemple, une transformation métrique n'affecte pas la forme de la figure transformée, comme dans une transformation par similitude, mais elle n'affecte pas non plus sa dimension. Là encore, une transformation géométrique de ce type se produit aussi dans l'environnement perçu par un observateur humain sous trois formes principales, qui sont très communes, que nous avons l'occasion d'observer tous les jours, qui sont la translation, la rotation, la réflexion. Translation, donc c'est le déplacement ici, la rotation, c'est ça, évidemment, ça, c'est la réflexion. Chaque groupe de transformation préserve ainsi un invariant et puis en néglige d'autres. Les transformations métriques conservent toutes les propriétés des figures transformées, à l'exception de leur emplacement et de leur orientation. Pas ici, c'est très clair. Les transformations par similitude perdent la dimension mais conservent la forme. Les transformations affines perdent l'angularité, donc l'ouverture des angles, mais conservent le parallélisme. Les transformations projectives, c'est-à-dire celles sur lesquelles la perspective linéaire sont fondées, perdent la plupart des invariants précédents, à l'exception de certaines primitives comme le tracé rectiligne des droites ou la disposition des volumes les uns par rapport aux autres. Alors reprenons maintenant chacun de ces types successivement, parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre les différentes formes de géométrie représentationnelle. La transformation métrique, elle est caractéristique de la géométrie euclidienne et elle est fondée sur le principe que les propriétés métriques de la figure, la dimension, la distance et les angles sont préservés lors de la transposition. Alors, on a vu que les trois transformations possibles sont la translation, la rotation, la réflexion. La translation, c'est le déplacement de la figure dans le plan. La rotation, c'est le basculement de la figure dans le plan à partir d'un point fixe. Et la réflexion, c'est le renversement de la figure sur un plan à travers une ligne ou un point. Donc on a ici les formes géométriques qui caractérisent chacune de ces figures, la translation à droite et la rotation et la réflexion à gauche, et un exemple tout simple de l'utilisation de l'une de ces transformations dans une image qui est le très célèbre Narcisse du Caravage. Dans la mesure où seule la position et l'orientation de la figure peuvent varier dans une transformation métrique, toutes les autres propriétés demeurent invariantes. C'est notamment le cas de la dimension, de la forme, de l'ouverture des angles, du caractère rectiligne des droites, du parallélisme, de la longueur, de la surface, etc. Donc les transformations métriques produisent des figures congruentes, c'est-à-dire c'est une propriété qui est transposable à la perception. Par exemple, la rotation d'un objet ou d'un observateur autour d'un objet va résulter en autant d'images congruentes que cet objet aura d'axes de symétrie. Par exemple, une roue de charrette en mouvement aura autant d'images congruentes que de rayons. Et c'est d'ailleurs une propriété qu'on verra utiliser dans des représentations un peu plus tard, avec la roue en particulier. La transformation, donc, ça c'était la transformation métrique, la transformation par similitude, elle comporte les trois transformations précédentes, rotation, translation et réflexion, plus une autre qui est la transformation radiale. C'est-à-dire, en termes vulgaires, c'est une amplification ou une diminution proportionnelle de la figure, toutes les dimensions variant simultanément. Voilà un exemple tout à fait classique d'une transformation radiale du premier triangle ici en un triangle ici, à partir d'un angle qui, lui, enfin d'un point de l'angle qui demeure fixe. Dans les transformations de ce type, on perd les invariants de longueur et de surface, mais on conserve la forme et on conserve l'ouverture des angles et toutes les propriétés qui leur sont associées, notamment le parallélisme et la perpendicularité. L'invariant fondamental ici, c'est la forme. Le premier triangle et le deuxième ont la même forme, ils ont les mêmes angles, même si les droites ne sont pas de même longueur. Cette transformation, elle est fondamentale dans la perception visuelle, où chaque fois que l'on s'approche ou que l'on prend de la distance par rapport à un objet vu frontalement, on réalise une transformation de ce type-là. L'objet, les dimensions de l'objet, diminuent ou augmentent sans qu'il perde sa forme, grosso modo. C'est une transformation, donc, qui, par similitude, qui s'opère chaque fois que nous avons cette expérience, à condition, évidemment, que l'objet soit toujours situé à la même hauteur par rapport au champ visuel de l'observateur. Et c'est une propriété qui donne d'ailleurs des informations importantes pour nous tous, comme sujet connaissant, nous déplaçant dans un environnement, sur la taille d'un objet, si cet objet se détache sur un horizon. Puisque, quelle que soit la distance d'observation, la partie de l'objet située sous l'horizon est toujours équivalente à la hauteur des yeux de l'observateur. C'est un rapport de proportion qui permet évidemment d'estimer la hauteur des objets en fonction de la distance par rapport à laquelle on est situé par rapport à cet objet. Troisième type de transformation, les transformations affines. Je fais un peu de géométrie classique, mais c'est très important pour le sujet qui nous intéresse. C'est une transposition d'une figure qui conserve le parallélisme, mais qui ne conserve pas la dimension des segments, l'ouverture des angles ou les surfaces. Et on parle à ce sujet assez souvent de projection parallèle. Globalement, dans un langage de Béotien, disons, il s'agit d'une projection sur un plan qui possède une inclinaison différente, le résultat étant que les angles varient, mais que les lignes parallèles demeurent parallèles. Voilà, disons, une image toute simple d'une transformation de ce type. Un exemple classique d'une transformation affine dans la perception, c'est la vision d'un paysage vu d'avion. Un paysage de champs, un parcellaire, si vous voulez, de champs et de routes, un finage bien clair, à condition que la lumière le permette, depuis vue d'un avion à grande altitude, les bords des champs, des maisons et des routes paraissent parallèles, mais il y a un angle, évidemment, en fonction de la direction du regard. Dernier type de transformation, j'irai très vite, parce que celle-là, elle est sans doute plus complexe, mais elle nous est plus familière, d'une certaine façon, ce sont les transformations projectives qui comportent et les projections, les projections précédentes et les projections affines notamment, à quoi s'ajoutent des projections dites centrales, c'est-à-dire la projection d'un plan sur un plan séquent. Voilà, c'est un exemple. Donc vous avez un point de vue d'observation, vous avez les lignes ici, là c'est le plan d'image, si vous voulez, par exemple. Et là, c'est le plan de la chose observée. Plus exactement, ici, c'est le plan de l'image, et ici, c'est le plan de la chose observée. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence dans tous les invariants. Et c'est au fondement, en quelque sorte, de la construction de la perspective linéaire, puisque ici, il n'y a pratiquement plus d'invariants, hormis le plus évident, qui est le caractère rectiligne des droites. Alors, on a donc une typologie quadripartite des géométries représentationnelles qui suppose que les propriétés invariantes que chaque transformation révèle ne sont pas exclusives les unes des autres dans l'absolu. Et seules, au fond, les circonstances, selon qu'un même observateur va percevoir telle ou telle propriété du monde, et selon qu'il est conduit à privilégier tel ou tel type d'invariant, de type métrique, de type par similitude ou par transformation affine, etc., va donc faire des choix de représentation visuelle. Cela dit, comme les conventions figuratives privilégient plutôt tel ou tel type d'invariant, Les autres, évidemment, ont tendance à être légués à l'arrière-plan. Donc, dans la production d'images, comme dans la perception, on peut choisir de représenter les propriétés métriques du monde, on peut choisir de représenter ses formes, ses dimensions, ses angles, ses proportions, comme dans un bas-relief égyptien, par exemple. Ou bien, on peut choisir de représenter le monde envisagé depuis un point de vue particulier, tout en conservant une nette distinction entre le monde figuré et l'environnement immédiat de l'observateur, ce qui conduit à privilégier les transformations affines, comme dans les rouleaux japonais, par exemple. Ou bien, un artiste peut choisir de figurer une image qui est comme une continuation directe de son environnement, une fenêtre ouverte sur le monde, pour reprendre l'expression d'Alberti, et il va amplifier la géométrie projective, qui est le signe distinctif de la perspective artificielle à l'italienne. Or, on voit déjà que, contrairement à des préjugés courants, c'est la figuration qui nous paraît à nous, en Occident, avec notre regard formé précisément par la géométrie projective dans la construction de la perspective linéaire, c'est la figuration qui nous paraît spontanément la plus proche de la réalité, la perspective artificielle, qui comporte le plus petit nombre d'invariants de l'objet qui est dépeint, et donc qui est, en fait, la moins fidèle aux propriétés objectives du prototype. Elle est la plus fidèle à un point de vue subjectif de l'observateur et la moins fidèle aux propriétés objectives du prototype de l'objet figuré. Cela dit, les invariants qui sont conservés dans la perspective artificielle sont ceux qui demeurent invariants lors des mouvements subjectifs de l'observateur. Et ça, c'est une chose intéressante. Ça veut dire que le rapport entre l'image qui est stable et l'image qui est obtenue par un déplacement dans l'espace est étroit. Ces invariants, c'est notamment les gradients de perspective et le rapport anharmonique des points et des lignes. Alors, examinons maintenant comment ces diverses transformations géométriques sont employées dans des images iconiques, tout simplement. Notons d'abord qu'une image restitue le monde observé, eh bien, soit depuis un point de vue unique, soit depuis un point de vue multiple, et qu'elle définit donc des relations spatiales différentes entre les lignes et les plans qui peuvent être perçus à partir de ce point de vue. Et finalement, la gamme des options est assez grande. Vous avez donc un point de vue peut être unique ou multiple dans une image, la distance par rapport à l'objet figuré peut être proche, moyenne ou infinie au sens de l'infini optique, les lignes de projection peuvent être convergentes ou parallèles, l'angle ou les angles peuvent être frontales ou obliques, et les plans peuvent être parallèles ou sécants. Ça fait un ensemble de possibilités de géométrie représentationnelle qu'on va passer en revue. Et on va prendre des exemples de projections dans chacune des quatre transformations géométriques. Donc là, vous avez par exemple, c'est l'exemple le plus simple, la projection d'un édifice rectangulaire, à gauche en projection métrique. Donc là, ici, c'est au fond, c'est l'image, et ici, c'est le prototype, où tout est conservé, le parallélisme, les angles, les dimensions la forme. Toutes les propriétés géométriques de la maison présentée sont conservées. La transformation par similitude conserve la forme, la valeur des angles, et le parallélisme, mais réduit la dimension de l'image par rapport au prototype. Hein, ici. Avec la construction ici du point de fuite. Le troisième exemple, c'est une projection affine, donc ici, qui conserve l'échelle dans la mesure où les lignes de projection sont parallèles, nécessairement ça conserve l'échelle, tandis que la forme et l'ouverture des angles diffèrent de l'original. Enfin, la transformation projective, celle-ci, est produite par des lignes de projection qui convergent vers un point de fuite, qui est ici, et la différence avec une projection par similitude, c'est que le plan de l'image et le plan de la façade ne sont pas parallèles. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des invariants du prototype disparaissent, on n'a plus ni la forme, ni la dimension, ni les angles, etc. Alors, on peut maintenant envisager une typologie plus précise des choix figuratifs en fonction du point de vue adopté, c'est-à-dire selon qu'on va adopter un point de vue unique ou un point de vue multiple, sur un même objet, et qu'on va donc dépeindre l'objet vu depuis un point de vue unique, l'exemple évident étant celui de la perspective linéaire, ou depuis un point de vue multiple, c'est-à-dire en multipliant à l'intérieur de l'image des vues du même objet. La surface de l'image peut être frontale ou oblique par rapport à la surface dominante de l'objet. Et enfin, l'artiste peut se placer soit près, soit à une distance moyenne, soit à une distance infinie, mais en infinie optique, du prototype. Donc ça, c'est une série de choix qui sont relatifs au point de vue adopté lorsque l'on dépeint une image. On peut faire des choix aussi relatifs à la composition. Les objets représentés peuvent être rangés ou non, c'est-à-dire dans une série ordonnée. Ils peuvent avoir une orientation uniforme par rapport au plan de l'image ou non. Le plan de l'image et le plan de l'objet représenté peuvent être parallèles ou ils peuvent être séquents. Et enfin, les lignes de projection peuvent être parallèles ou elles peuvent être convergentes. Donc ça, c'est les principes de composition. Et les troisième types de choix, ce sont les choix qui sont relatifs à la géométrie choisie. Si les plans et les lignes de projection sont parallèles, l'image est une projection métrique. Si les plans sont parallèles et les lignes de projection sont convergentes, c'est une projection par similitude. Si les plans sont séquents et les lignes de projection parallèles, c'est une projection affine. Et enfin, si ni les plans ni les lignes ne sont parallèles, c'est une transformation projective. En utilisant ces catégories qui sont purement géométriques et perceptives aussi, une étude comparative des styles est possible qui révèle des convergences et des divergences surprenantes. Alors, je vois qu'il est 3 heures, mais je vais quand même poursuivre un petit moment. Parce qu'on commence, on est juste au début de la chose. Voilà quelques types de styles qu'on va explorer en fonction des choix de point de vue. Et là, je reprends des propositions que Margaret Hagen avait faites concernant 4 styles, qui est le style européen, disons, post-Renaissance, c'est-à-dire la géométrie projective, la perspective linéaire, l'Égypte ancienne, la côte nord-ouest, et l'art japonais. Je vais commencer donc par la comparaison concernant les points d'observation. Quels sont les choix possibles dans les points d'observation ? L'immense majorité. Alors, je vais commencer avec l'Europe, puis je vais m'arrêter là parce que je n'aurai pas le temps d'aller en détail dans les autres. Mais juste quelques mots sur l'Europe, ça sera plus simple parce que c'est des choses qui nous sont très familières, on a tous appris ça à l'école. L'immense majorité des images européennes depuis le XVe siècle, jusqu'au cubiste au fond, sont construites à partir d'un point de vue unique. la distance au centre de la projection est généralement modérée, c'est-à-dire rarement plus de 10 fois la taille de l'objet à dépeindre, selon la prescription classique de Léonard de Vinci. Et le plan de l'image est presque toujours oblique par rapport à la majorité des surfaces à dépeindre. Donc, pour l'essentiel, la perspective linéaire ou artificielle ou monofocale, etc., telle qu'Alberti en a énoncé les principes de construction, c'est le modèle qui correspond à ces trois caractéristiques découlant donc du point de vue unique. Alors, il n'est pas indispensable d'ailleurs que le point de vue unique soit central, ni que l'image comporte un seul point de fuite. Le point de vue peut être asymétrique, c'est-à-dire décalé par rapport à l'axe de l'image, et l'image peut comporter plusieurs points de fuite. En revanche, dans ce système, elle ne peut avoir qu'un seul point de vue de l'observateur. On peut en avoir un exemple très simple. Donc là, c'est une image dans laquelle le point de fuite est décalé vers la gauche. Et là, c'est une image dans laquelle il y a des points de fuite multiples. Ici, 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 etc. Mais le point de vue d'observation est unique. Donc il n'y a pas nécessairement de coïncidence entre point de vue d'observation et point de fuite. Il peut arriver toutefois que certains objets à l'intérieur de l'image soient dépeints selon des conventions qui sont sensiblement différentes. Alors, par exemple, les sphères, vous pouvez vous amuser à observer ça dans la peinture, sont le plus souvent figurées par des cercles, alors qu'elles devraient, selon les règles de la géométrie projective, être figurées par des ellipses. Les figures humaines aussi, elles sont en général... elles ne suivent pas les règles de la géométrie projective, elles seraient bizarres si elles suivaient les règles de la géométrie projective, elles sont dépeintes en général comme des portraits en pied qui sont rajoutés à l'intérieur d'un dispositif organisé par la géométrie projective. Deuxième point, la distance modérée, c'est-à-dire le caractère systématique de l'utilisation de la distance modérée dans ce type de style, elle est fondée aussi sur le principe albertien, hein, que l'artiste doit reculer par rapport à l'objet qu'il dépeint jusqu'à ce qu'il trouve, et la formule d'Alberti est la suivante, la section correcte de la pyramide visuelle. Autrement dit, ce qui va permettre d'embrasser avec le plus de précision et en même temps d'ampleur l'objet qui se donne à dépeindre. Quant au rapport de 1 à 10 entre la taille de l'objet et la distance à laquelle cet objet doit être dépeint, donc la fameuse règle de Léonard, ce rapport peut être amplifié, selon Léonard toujours, en un rapport de 1 à 20, si l'artiste désire que son tableau puisse être regardé depuis n'importe quel angle. Et ce précepte s'enracine dans le fait que les traits invariants augmentent à mesure que la distance croît. Donc cet impératif de la distance modérée est constant dans la peinture occidentale, même s'il n'est pas toujours consciemment appliqué, ou enseigné même, par ceux qui la mettent en œuvre. On en voit un exemple intéressant dans une célèbre peinture de Mantegna, qui est la Lamentation sur le Christ mort, qui est un exemple classique de virtuosité dans le raccourci. Dans un article de la Gazette des Beaux-Arts, Robert Smith, un historien de l'art, a montré que dans cette exceptionnelle vue très rapprochée, la dalle sur laquelle repose le Christ est correctement figurée pour un point de vue d'environ 1,50 m par rapport à l'objet dépeint, tandis que les proportions du corps du Christ lui-même ne correspondent pas à cette distance, mais à un point de vue qui est beaucoup plus éloigné. Et au fond, c'est assez normal pour un schéma de géométrie représentationnelle fondé sur la transformation projective qui est typique de ce que j'ai appelé le naturalisme. Ce schème, il implique que les lignes de projection entre le sujet de la composition et le point de vue sont convergentes et que l'angle entre le plan de l'image et le plan du sujet est oblique. et les lignes de projection convergentes sont en effet nécessaires d'un point de vue situé à une distance modérée du sujet à dépeindre. Un autre précepte qui est parfois implicite, parfois explicite, est que le plan du sol est généralement horizontal et que le plan de l'image est perpendiculaire au plan du sol. On a un très bon exemple de cela, c'est une fameuse illustration, c'est le perspectographe de Dürer qui illustre au fond tous ces préceptes de la géométrie représentationnelle du naturalisme que je viens d'évoquer, qui est d'ailleurs toujours utilisé dans les écoles de dessin. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà pas mal dépassé et je vais continuer donc la leçon prochaine d'explorer les différents types de géométrie correspondant à différents styles dans d'autres parties du monde.